Sakapanya Sutta. Dans la littérature bouddhiste, Saka est le nom donné au roi des dieux, les Devas, et Panya signifie question. Donc, le Sakapanya Sutta est le discours sur le bien-être des êtres vivants que le Bouddha donna au roi des Devas en réponse à ses questions. Saka demanda au Bouddha: « Seigneur, il y a des Devas, des êtres humains, des Asuras, des Nagas, des Kandabas et beaucoup d'autres créatures vivantes. Ces êtres veulent être libres des querelles, des conflits armés, de l'animosité et du malheur. Ils ne sont pourtant pas libres de ces maux de la vie. Qu'est-ce qui les en empêche ? Ici, les Devas à qui il est fait référence sont probablement les Katumaharaja et Tavatimsa Deva que Saka connaît bien. Les Asura Deva étaient à l'origine les ennemis des Tavatimsa Deva qui leur livrèrent bataille, ainsi que mentionné dans le Dajaga et d'autres suttas. Autrefois, ils vivaient dans le paradis Tavatimsa, mais comme ils étaient ivres, ils furent poussés au pied de mon Meru par Saka. Les Nagas étaient une espèce de serpent qui pouvait accomplir des miracles avec leur pouvoir psychique. Les Gandabas étaient une sorte de Kamtumaharaja Deva qui excellait dans la danse, la musique et autres activités culturelles du monde céleste. Enfin, il y avait les Yakas, une sorte de dieu démoniaque d'animaux. Ces Devas et autres êtres du monde sensuel veulent être libres de la haine, ne veulent pas être rancuniers, maltraiter les autres, ni être eux-mêmes maltraités ou volés. Ils ne veulent pas devenir les ennemis d'autres gens. En bref, toutes les créatures vivantes désirent la sécurité, la paix, la liberté et le bonheur. Pourtant, elles sont toutes plongées dans le danger, la misère et la souffrance. Qu'est-ce qui cause cette situation ? Aujourd'hui, nous entendons les cris universels pour la paix dans le monde et pour le bien-être de l'humanité. Mais en fait, ces espoirs pour un monde heureux sont loin d'être réalisés, et cela soulève naturellement la question de la cause de notre frustration. Dans sa réponse, le Bouddha a décrit l'envie, Issa, et l'avarice, Macharya, comme les deux faits qui mènent à la situation malheureuse de l'humanité. Issa est l'envie qui produit la malveillance envers ceux qui nous sont supérieurs et nous rend peu disposés à voir les autres aussi prospères que nous-mêmes. Macharya est l'avarice qui conduit à garder ses possessions pour soi. Ces deux choses, l'envie et l'avarice, nous frustrent et causent des querelles, l'hostilité, le danger et la misère. Ceux qui envient un homme à cause de sa prospérité, de son influence, de ses relations ou de son statut social, seront malheureux, bien qu'ils parlent de leur désir de paix intérieure. Leur tristesse provient de leur envie. Naturellement, ceux que l'on envie deviennent nos ennemis et vice-versa. Beaucoup de personnes souffrent de l'envie, et cette envie engendrera à son tour de la souffrance dans le cycle des existences. Malgré le désir d'éviter le conflit, l'avarice y mène. On s'irrite si quelqu'un prend ou utilise nos biens propres. On en veut parfois même à nos proches. C'est évident dans le cas de couples mariés. Donc, l'avarice mène à l'hostilité, au danger, à l'inquiétude et à la misère. Pour résumer la réponse du Bouddha, les causes premières de l'envie et de l'avarice sont les objets des sens que nous aimons ou n'aimons pas. Le remède est d'observer tous les phénomènes provenant des six sens, d'éviter les pensées malsaines et d'avoir seulement des pensées saines. Ceci est la substance du discours. L'introduction à un discours nous dit où, pourquoi, à qui et par qui a été donné le discours. Cela sert à établir l'authenticité des enseignements du Bouddha. Sans cela, l'origine d'un discours soulève des questions, comme dans l'Abhidhamma Pitaka, qui n'a pas une telle introduction. L'Abhidhamma a été prêché par le Bouddha dans le paradis Tavatimsa. À ce moment-là, le Bouddha allait quotidiennement dans la forêt de l'Himalaya pour se reposer la journée, laissant au Nimitta Bouddha le soin de continuer son enseignement régulier. Le Bouddha donnait au vénérable Sariputta un résumé de l'Abhidhamma qu'il allait prêcher le jour même, et le chef disciple à son tour le prêchait aux 500 moines. Donc l'Abhidhamma est attribué au vénérable Sariputta, mais ainsi qu'il est dit dans les commentaires, puisqu'il l'avait entendu du Seigneur, c'est l'enseignement du Bouddha. L'Abhidhamma Pitaka n'a aucune déclaration d'introduction comme « Evame Sutam, ainsi ai-je entendu » et selon les commentaires, certains ne l'ont pas accepté comme le réel enseignement du Bouddha. Pour que la postérité ne puisse avoir aucun doute sur l'authenticité des enseignements du Bouddha, la plupart de ceux inclus dans le canon du premier concile bouddhiste ont des introductions basées sur les questions et les réponses des doyens de l'assemblée. Les exceptions sont le Dhammapada et quelques autres discours. L'introduction au Sakkapagna Sutta est superbe. Elle rend le discours impressionnant et met en évidence la substance des enseignements du Bouddha. Pour enregistrer un événement si important, le vénérable Mahakassapa a demandé au vénérable Ananda où, à qui et pourquoi le discours a été prêché, et le vénérable Ananda répondit comme suit. Une fois, le Bouddha demeurait dans une grotte à l'est de la ville de Rajagaha, dans le pays de Magadha. À ce moment-là, Sakka cherchait à voir le Bouddha. Il avait vu le Seigneur la veille de son éveil suprême et une autre fois dans le monastère Jetavana à Savatthi. Mais comme il n'était pas encore alors mûr spirituellement, le Bouddha ne lui avait pas accordé d'interview. Maintenant, Sakka avait décidé de voir le Seigneur, accompagné par sa suite de devas, parce qu'il espérait entendre un discours que le Seigneur pourrait prêcher à quelqu'un parmi ses disciples qui était digne de libération. Cependant, c'était en grande partie sa crainte de la mort qui avait réveillé son fort désir de voir le Bouddha. Étant conscient que la fin de sa vie approchait, il était anxieux et cherchait quelque chose pour son salut. Quand un deva est sur le point de décéder, 5 signes apparaissent. Les fleurs sur sa tête se fanent, ses vêtements deviennent sales et usés, alors que le deva ne sue jamais normalement. Il sue des aisselles. Sa jeune apparence s'éteint et apparaissent des signes de la vieillesse. Et enfin, la dernière semaine de son existence, il devient las de la vie. Ayant vu ces 5 signes, Sakka réfléchit sur sa mort imminente et devint déprimé. Pour surmonter sa dépression, il décida de voir le Seigneur et d'écouter le Dhamma. Par conséquent, il apparut instantanément près de la résidence du Bouddha avec sa suite de devas. Selon les commentaires du Visuddhimagga, il ne fallut à Sakka et à ses disciples pas plus de temps que d'étendre ou plier une main pour qu'ils arrivent du plan céleste Tavatimsa à Magadha. Comme le Mahatika dit, les phénomènes qui naissent dans un endroit disparaissent au même endroit, ils ne vont pas à une autre place. Le méditant qui observe les mouvements quand il se penche et s'étire selon la méthode Satipatthana est conscient de la disparition des phénomènes plusieurs fois en un instant. De même que les phénomènes physiques et mentaux apparaissent et disparaissent immédiatement, les devas atteignirent Magadha à cause du flux successif d'esprit et de matière en une fraction de seconde, en raison du pouvoir divin, Kamajida, qui donne une vitesse aux devas beaucoup plus grande que celle de fusées modernes ou d'un vaisseau spatial. Sakka voulait avoir la permission du Bouddha pour lui rendre visite. Il dit donc à Panchasika Deva d'aller voir si le Seigneur était disposé à l'accueillir. Dans la déclaration de Sakka est employé le mot « pasadeyasi » qui signifie littéralement « rendre quelqu'un gai ». Selon les commentaires, cela signifie « satisfaire une personne » et chercher son consentement. C'est une expression pali que les Indiens de l'époque utilisaient pour parler poliment. C'est quelque peu comme la maxime du chacal à l'éléphant dans le Hitopadesastre en sanskrit. Le chacal dit « Monseigneur, faites avec bonté vos yeux clairs », ce qui signifie « avec bonté aidez-moi ou faites-moi la faveur ». Donc, conformément à la demande de Sakka, Panchasika alla à la résidence du Bouddha. Se tenant respectueusement à une distance appropriée du Seigneur, il joua de la harpe et chanta des chansons au sujet de Bouddha, du Dhamma, de la Sangha et d'Arahant. Le Bouddha n'aurait pas approuvé la façon du Deva de l'honorer avec des chansons et de la musique, pas plus qu'il n'aurait approuvé certaines pratiques birmanes modernes bouddhistes, comme la récitation mélodieuse d'écritures saintes pali, les grands festivals de pagode, le meurtre de tas d'animaux pour l'alimentation des célébrations et autres pratiques qui desservent la religion bouddhiste. Cependant, le Bouddha ne dit rien car il savait que beaucoup de personnes profiteraient de son dialogue avec Sakka. Certaines chansons de Panchasika avaient un caractère sensuel car elles décrivaient son engouement pour une belle déesse qui l'avait presque rendu fou. Sa frustration montre que le monde des devas ne garantit pas l'accomplissement de tous les désirs et que la vie d'un deva n'est pas toujours un lit de roses. Ces chansons contiennent aussi des références au Bouddha, aux arahantes et aux bonnes actions qu'il avait faites sur terre. Il parlait du Bodhisattva, qui est toujours attentif, absorbé en jhana et l'esprit tourné vers Nibbana. Ici, jhana signifie observation et l'objet qui est observé peut être l'objet de concentration, ou cela peut être la nature de l'esprit et du corps, telle que l'impermanence, etc. Après avoir abandonné l'auto-mortification, le Bodhisattva a recouru à des exercices basés sur la respiration et a atteint un jhana. Ces pratiques jhaniques sur un unique objet d'attention peuvent durer 2 heures. Par le pouvoir de ce jhana, le Bodhisattva s'est remémoré ses précédentes existences, Pubenivasanyana, en étant assis sous l'arbre Bodhi, dans la première partie de la nuit. À minuit, il a atteint l'œil divin, Dibhachaku, qui lui a permis de voir la mort et la naissance de tous les êtres dans l'univers. Dans la dernière partie de la nuit, le Bodhisattva a médité sur l'origine dépendante et a atteint la compréhension de l'apparition et de la dissolution de l'esprit et de la matière, en voyant, entendant, etc. Cette attention constante de la nature de l'existence est une marque de sagesse mature, mais Panchasikadeva ne semblait pas le savoir. Il savait seulement que le Bodhisattva méditait constamment, l'esprit tourné sur Amata ou Nibbana. Le mot Amata vient du sanskrit Amrita, qui signifie le fait d'être mort, immortel, et ainsi Amata se réfère à l'immortel ou Nibbana. Questionné par le Bouddha quant à l'origine de ses chansons, Panchasika répondit qu'il les avait composées pour chanter la sérénade à sa déesse bien-aimée. La déesse fut si enchantée par ses chansons au sujet du Bouddha qu'elle lui permit de passer un jour avec elle. Une faveur qu'elle ne lui accorda pas de nouveau. Éperdu et frustré pour son amour non réciproque, le Deva donna libre cours à ses sentiments dans ses chansons. Là, le Deva n'était pas différent d'une personne ordinaire qui est si dépassée par le désir qu'elle ne peut pas penser rationnellement. Une fois, le disciple d'un célèbre sayado quitta l'ordre saint pour une affaire de femme. Les disciples du sayado blâmèrent le couple, mais il leur dit « Vous ne devriez pas les blâmer, ils ont été pris par la force de leur désir. Donc vous devriez blâmer leur désir. C'est en effet un enseignement réaliste. » Quand le Deva rendit hommage au Bouddha de la part de son maître, le Seigneur souhaita le bonheur à Sakka, tant dans le corps que dans l'esprit. Le Bouddha fit ce souhait parce que tous les êtres veulent le bonheur, et c'était la façon de bénir ceux qui l'honoraient. Quand Sakka avait exprimé son adoration pour le Bouddha à travers le Deva, il n'y avait pas de demande, mais, par les mots palis, nous devons comprendre qu'il s'attendait à être assuré d'être heureux. Autrement dit, il espérait que le Bouddha dirait « Puisses-tu être heureux ?» Le Bouddha bénissait d'autres dévots de la même manière. Cela nous donne matière à réfléchir sur la pratique moderne de donner de nombreuses bénédictions en récompense à une simple dévotion. Le dévot prie pour beaucoup de choses, mais sa prière est souvent en désaccord avec la grande bénédiction du moine qui officie. En fait, il n'est pas nécessaire pour le dévot de dire quoi que ce soit de plus que l'hommage aux trois joyaux. Non pas qu'il n'y ait pas de choses pour lesquelles vous ne devriez pas prier, mais il ne devrait y avoir aucune incongruité entre la prière et la bénédiction. Puisque le moine mentionne en général tous les bénéfices qui s'accumulent pour celui qui fait une bonne action, tout ce qu'il ou elle doit faire est d'exprimer le désir de les obtenir. En rendant hommage au Bouddha, Sakka n'a prié pour rien, mais il a été assuré des bénéfices dus, comme mentionné. Il est bien pour des dévots de prier pour la longévité, la santé et la sécurité, et le moine devrait les bénir en conséquence. Il ne devrait pas agir comme s'il décrétait l'accomplissement de leurs vœux, mais seulement comme quelqu'un y contribuant. Puis Sakka et ses disciples vinrent rendre hommage au Bouddha. Sakka dit que malgré son désir ardent de voir le Seigneur, il avait été incapable de le faire à cause de préoccupations avec des dévas. Il narra au Seigneur son expérience de ce qu'il avait entendu précédemment. Il était dit que la population des Devas augmentait quand un Bouddha apparaissait, et il avait constaté que c'était vrai. En suivant les enseignements du Bouddha, certains avaient observé les cinq préceptes, certains avaient donné l'aumône et la plupart d'entre eux avaient atteint le monde des Devas après leur mort. Et ceux qui avaient au minimum la foi dans le Bouddha avaient été assurés de renaissance dans le monde des Devas. C'était le point de vue que le Bouddha ne rejetait pas quand il était exprimé par un Brahma. La foi dans le Bouddha signifie la foi dans le Dhamma et dans la Sangha, et cela assure la protection d'une renaissance dans les mondes inférieurs. De plus, même donner l'aumône aux disciples du Bouddha apporte plus de résultats karmiques qu'un autre acte de générosité. Ainsi, un Deva, en tant que disciple du Bouddha, avait donné une cuillère de riz à un arahante dans son existence précédente, et il était plus puissant qu'un autre Deva qui, quand il était sur terre, avait alimenté des tas de gens par charité pendant de nombreuses années. Il y a environ 100 millions de personnes dans la vallée du Gange, le berceau du bouddhisme. Environ 80 millions de personnes pourraient avoir été bouddhistes. À part l'arahante et ceux du stade d'Anagami, un grand nombre de ces bouddhistes pourraient avoir atteint le monde des Devas. Cela représente probablement l'augmentation de la population des Devas de ce temps-là. Saka continua à relater l'histoire de Gopaka, une princesse de la ville de Savatthi, nommée Gopaka, était pleine de foi dans le Bouddha et observait strictement les cinq préceptes. Elle détestait la féminité et préférait être un homme. Ainsi, après sa mort, elle est devenue le fils de Saka et a été appelée Gopaka. Un jour, Gopaka vit trois Gandhabas venus pour distraire Saka. Il découvrit qu'ils étaient autrefois trois moines que Saka avait soutenus. Il se demanda pourquoi ils s'étaient réincarnés dans la classe inférieure des Devas, malgré leur dévotion à la vie sainte dans leur vie précédente, tandis que lui-même, une femme ordinaire dans son existence passée, était devenu le fils de Saka en vertu de sa foi et de sa moralité. Les trois Gandhabas se sont alors rappelés leur vie passée et se sont rendus compte que leur renaissance dans la classe inférieure des Devas était en raison de leur désir pour le monde des Gandhabas. Deux des Devas pratiquèrent la méditation et atteignirent le stade d'Anagami en un instant. L'autre Deva fut cependant incapable de surmonter son attachement sensuel et resta donc dans sa vie inférieure. Ici, la renaissance en Gandhaba résultant de l'attachement à une vie ancienne de la même sorte est particulièrement remarquable. Les gens vont probablement se réincarner dans leur place natale et dans l'environnement qui a eu une influence particulière sur eux. Les trois moines mentionnés ci-dessus ne sont pas une exception à cet égard. Le roi Bimbisara, qui adorait le Bouddha et avait donné volontairement l'aumône à la Sangha pendant 37 ans, est devenu un subalterne d'un Katu Maharaja Deva après sa mort. Il aurait pu atteindre un plus haut monde de Deva, si ce n'est à cause de son attachement dans des vies précédentes. Cela ne fait aucun doute du besoin de surmonter l'attachement à sa place natale. Les deux Devas ont atteint le jhana parce qu'ils se sont remémorés le Dhamma et qu'ils avaient pratiqué dans leur vie précédente, et ils ont atteint le stade d'Anagami du noble chemin par la méditation. Vous ne devez pas être découragé par le manque de succès dans la méditation, car l'effort persistant conduira à la renaissance au paradis. Là-bas, vous êtes assuré d'expériences spirituelles inhabituelles si vous vous rappelez et continuez à pratiquer le Dhamma. Comme un discours dans l'Anguttara Nikaya dit, le corps physique d'un Deva est pur et radiant et le Dhamma devient clair pour le Deva qui a pratiqué dans sa vie précédente. Cela peut prendre du temps pour s'en souvenir, mais le souvenir est immédiatement suivi par l'accomplissement de la compréhension de la connaissance. Certains peuvent l'oublier à cause du plaisir céleste, mais en tant que Deva, ils sont physiquement et mentalement alertes, et une fois qu'ils tournent leur esprit vers le Dhamma par la réflexion ou par des discours, ils comprennent et atteignent la compréhension très vite. Si les méditants qui luttent pour l'expérience spirituelle ne l'acquièrent pas dans cette vie, ils l'auront certainement dans le monde des Devas. Comme le monde des Devas est plein de plaisirs sensuels, ceux qui ont atteint le stade d'anagami ne peuvent pas rester là et donc ils vont dans le monde des Brahmas immédiatement. Pour Sakka, la transformation des deux Devas dans le plan des Brahmas sous ses yeux fut très impressionnante. Quand il entendit l'explication de Gopaka, il voulut partager leur expérience spirituelle. De plus, les signes de sa mort imminente avaient alimenté son désir de la vie d'un Brahma. S'il écoutait le Dhamma, il pourrait avoir une meilleure vie future, même s'il n'atteignait pas de compréhension spirituelle. Écouter le Dhamma est en effet la meilleure chose qu'un Deva peut faire sur son lit de mort. La question de Sakka et la réponse du Bouddha. Tout d'abord, Sakka demanda la permission au Bouddha de lui poser des questions. Il est coutume pour un être hautement cultivé de demander la permission avant de demander quelque chose. Donc Sakka posa la question suivante. Seigneur, toutes les créatures vivantes veulent être libres de la colère et de la malveillance. Elles ne veulent pas se disputer ou être maltraitées. Elles prient pour avoir le bonheur, la sécurité, la paix et la liberté. Et pourtant, elles ne sont pas libres du danger et de la souffrance. Quelle est la cause de cette situation ? Le Bouddha répondit : Ô roi des Devas, toutes les créatures vivantes veulent le bonheur, la sécurité, la paix et la liberté. Et pourtant elles ne sont pas libres de la haine, des conflits, du danger et de la souffrance. Cette malheureuse condition est en raison de l'envie, Issa, et de l'égocentrisme, l'avarice, Macharya. L'envie est l'aversion pour la prospérité et le bien-être d'autrui qui rend malveillant et destructeur. Ces désirs malveillants pour ceux qu'on envie mènent à la souffrance dans le présent et le futur. Dans le monde, l'envie cause beaucoup de souffrance. La personne envieuse a horreur de voir les gens heureux ou prospères. Donc, la caractéristique de l'envie est le ressentiment vis-à-vis du bien-être des autres. Sa fonction est de rendre la personne envieuse malheureuse et sa manifestation est de ne pas regarder la prospérité d'une autre personne. Celui qui est dominé par l'envie ne veut pas voir une autre personne prospère, couronnée de succès, belle, instruite, ou promu à un haut rang social. L'envie est un mal qui ne profite d'aucune façon à la personne qui l'héberge. C'est un sol fertile pour un mauvais karma qui rend malheureux. Si un homme puissant cherche à ruiner la personne qu'il envie, cette personne deviendra son ennemi et elle pourra se venger. Même s'il n'y a aucune vengeance, cet homme en souffrira sûrement dans une prochaine vie. Le Chulakamavibhangasutta résume les conséquences karmiques de l'envie comme le fait d'être impuissant et de manquer d'influence. Certains ne veulent même pas entendre parler de la bonne fortune d'autrui, sa richesse, son intelligence, sa bonne santé, son éloquence et sa popularité. Et donc, ils disent ou font des choses qui sont nuisibles à l'intérêt de l'autre personne. La propagande est motivée par l'envie. La personne dominée par l'envie souffrira en enfer pendant de nombreuses années et après, si elle se réincarne dans le monde humain, deviendra une personne de basse classe, avec peu d'amis et sans réputation. D'autre part, celui qui se réjouit de la bonne fortune des autres est doté de bienveillance. Il est heureux quand il voit ou entend parler de la prospérité des autres, et il aide à promouvoir le bien-être d'autrui autant que possible, cultivant ainsi beaucoup de bons karmas. Il atteint le monde des devas après sa mort, où il mène une vie heureuse, et à son retour dans le monde humain, il est puissant et entouré d'amis. Donc ceux qui veulent prospérer dans cette vie et dans les vies futures devraient surmonter l'envie et cultiver la joie compatissante, mudita. Autrement dit, ils devraient se réjouir du bien-être d'autres gens. L'avarice, macharia, conduit à garder ses biens pour soi. C'est ne pas vouloir partager avec d'autres les objets de son attachement. Elle est caractérisée par la possessivité extrême. Elle porte sur 5 points. Les logements, les amis et les associés, les choses matérielles, les qualités et les connaissances. La première sorte d'avarice peut être trouvée parmi quelques moines qui ne veulent pas voir d'autres moines de bonne moralité demeurer dans leur monastère. Un moine peut ne pas vouloir que ses disciples donnent l'aumône à d'autres moines. De tels moines envieux, à cause de leur malveillance, devront subir beaucoup de souffrances après la mort. Vana macharya est le désir de posséder exclusivement une qualité spéciale, comme la beauté physique, et en vouloir à ceux possédant la même qualité. Cela peut mener à la laideur comme conséquence karmique. Dhamma macharya signifie envier une personne pour ses connaissances ou garder ses connaissances pour soi. Ce macharya peut conduire à devenir bête ou idiot dans des vies futures. Ainsi, l'avarice rend un homme malheureux, pauvre, seul et sujet à une très grande souffrance après la mort. Avasa macharya concerne en grande partie les moines, les bhikkhus. C'est la tendance à considérer un monastère comme sa résidence privée. Pour les laïcs, c'est la tendance à avoir une attitude semblable quant aux droits religieux publics comme des temples, des centres de méditation. Kulamacharya concerne les moines qui ne veulent pas que leurs disciples aient des relations proches avec d'autres moines. Quelques moines interdisent à leurs disciples de voir d'autres moines ou d'écouter leurs discours. L'abha macharya est le désir pour quelques moines d'avoir le monopole d'aumônes et ne pas les dédier à d'autres bons moines. Comme exemple de la souffrance samsarique liée à ce mal, voici l'histoire de l'Osakatissa. À l'époque du Bouddha Kassapa, un moine vivait dans un village et dépendait d'un disciple pour les nécessités de la vie. Un jour, un autre moine arriva et s'installa dans son monastère. Craignant que le respect de son disciple pour le nouveau venu soit une menace à sa sécurité, le moine essaya de se débarrasser de son invité. Quand le disciple les invita à déjeuner, il y alla seul et sur son chemin de retour, il jeta dans un fossé l'alimentation offerte pour le nouveau moine. À sa mort, il souffrit pendant plusieurs éons en enfer, puis il reprit naissance dans le monde animal, où il dut souffrir d'une très grande faim pendant longtemps. Dans sa dernière existence, il se réincarna en pêcheur dans un village du Kosala. Quand il naquit, le malheur frappa ses parents et les villageois. Tourmentée par la faim, sa mère fut si désespérée qu'elle l'abandonna tandis qu'il était en train de mendier. Le vénérable Sariputta vit l'enfant affamé. Pris de pitié, il emmena l'enfant à son monastère, où quelques années plus tard il devint un bhikkhu. Il fut appelé Vénérable Lhosakatissa, parce qu'il était si malchanceux qu'il n'obtenait jamais un bon repas, même à une grande fête. Ce qu'il obtenait était à peine suffisant pour le maintenir en vie. Cette mauvaise action karmique le suivit même quand il atteint un Township. Peu de temps avant son parinibbana, le vénérable Sariputta l'emmena à Savatthi pour s'assurer qu'il ait un bon repas le dernier jour de sa vie. Il est dit qu'il n'y avait personne pour offrir de la nourriture aux moines et que le vénérable Sariputta envoya son compagnon dans une maison de repos. Des disciples offrirent de la nourriture qu'il fit envoyer à Lhosakatissa, mais les hommes chargés d'offrir la nourriture la mangèrent en cours de route. Donc le vénérable Sariputta dut lui-même apporter l'alimentation et tenir le bol tandis que le vénérable Lhosakatissa mangea son dernier repas. C'est de cette façon que le vénérable Lhosakatissa prit son dernier repas et décéda le jour même. Cette histoire ne laisse aucun doute sur les éventables conséquences karmiques de l'avarice. De nombreuses sortes d'avarice affligent les gens, comme par exemple l'abhamacharya, ceux qui cherchent à garder le monopole dans les affaires, vanamacharya, ceux qui ne reconnaissent pas les bonnes qualités des autres, et dhammamacharya, ceux qui ne veulent pas partager leurs connaissances avec d'autres. La déclaration du Bouddha attribuant le malheur de l'humanité à l'envie et à la malveillance était vraiment appropriée à Sakka, puisqu'en vue de sa fin prochaine, il était malheureux à l'idée que ses femmes tomberaient dans les mains de son successeur, et à la pensée de ce dernier lui succédant. Ainsi, il comprit la vérité par la réponse du Bouddha et posa une autre question.